الله وبركاته. إن شاء الله. J'ai donné des feuilles à imprimer parce que je devais le donner depuis, mais bon, les circonstances. Inch'Allah, on va commencer Inch'Allah notre cours aujourd'hui. C'est sur le thème qu'on avait fait la coupe dessus. Vous voyez. Donc, la raison, c'est tout simplement, elle est sociale. Quand on regarde aujourd'hui, la jeunesse, tout le monde bien sûr, mais comme c'est la jeunesse qui est vivante, c'est pour cela qu'on parle beaucoup sur la jeunesse. Est-ce que vous avez compris? Aujourd'hui, on couvre beaucoup sur la richesse. Disons, parce qu'il y a une différence entre richesse et, richesse et fortune, mais on confond les deux. Oui. C'est beaucoup derrière la fortune qu'on court que la richesse. Vous avez compris? La richesse, c'est tout simplement ce qui nous assure la subsistance. La subsistance, c'est qui nous comble. C'est ça la richesse. Donc, ce n'est pas ça que les gens cherchent, parce que nous l'avons déjà. Tout le monde en a. Comme j'ai donné l'exemple dans la prière, bon, d'abord, Inna alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu, wa nastaghfiru, wa na'udhu billahi min shururi anfusina, wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Donc notre thème, comme je l'ai dit, la course à la fortune. La course à la fortune, pourquoi ce sujet? J'ai commencé à expliquer ça tout de suite. Parce que aujourd'hui, tout le monde ne pense qu'à devenir très riche. Aujourd'hui, le téléphone avec nous, le TikTok, on ne parle que comment devenir riche. Et cela ne fait s'accroître sur les chaînes et les lignes. C'est parce que tout simplement, c'est ce que les TikTokers peuvent vendre aux gens. Et c'est ce que les gens cherchent. Toutes les sociétés du monde aujourd'hui, nous voyons que le catastrophe est la chose la plus grave qui se passe, c'est justement le fait. Jusqu'à ce que certains disaient que, avant, quand on voyait le haram, on fuyait. Mais aujourd'hui, on courait derrière le haram et le halal, on s'en fiche. Ça veut dire tout simplement on voulait être riche. Ça, c'est un désastre dans toutes les sociétés. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, en tant que musulman, nous a éveillés à ce fléau. Depuis la base. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans surat al-Takathur, Al-Hakum al-Takathur. Al-Hakum al-Takathur. La trésorisation, trésoriser, ça veut dire amasser beaucoup d'argent, mais qu'on ne va même pas utiliser en réalité. Donc, trésoriser vous a distrait. Vous voyez la distraction? La distraction, c'est quand l'être humain se met dans une situation où son esprit n'est pas éveillé à l'essentiel. Donc, à cause de cette volonté de amasser beaucoup de fortune, nous sommes distraits à l'essentiel de notre vie. Et ça, c'est catastrophique. Parce qu'Allah nous a donné cet esprit, cette intelligence, que de l'utiliser pour l'essentiel de notre vie. Et quand nous parlons de l'essentiel de notre vie, c'est cet essentiel par lequel nous allons accéder à ce bas monde et à l'au-delà. Le monde d'aujourd'hui, le bas monde n'est pas l'objectif, mais c'est le moyen. C'est le moyen par lequel nous accédons à l'au-delà. Donc, s'il y a quelque chose de notre vie qui nous distrait, qui nous dévie, qui nous fait oublier à cet essentiel, donc c'est quelque chose de très grave. Donc c'est pour cela qu'il a dit Al-Hakum al-Takathur Hatta Zultum al-Muqabir. Les savants ont dit Hatta Zultum al-Muqabir, c'est lié à Sabab al-Nuzul. C'est lié à Sabab al-Nuzul. Sabab al-Nuzul, c'est deux individus ou deux fractions de personnes qui disputaient. Chacun se vantait de ses aïeux. Mes aïeux sont ceci, cela. Jusqu'à ce que chacun est parti montrer à l'autre, mon grand-père, voilà, il est enterré ici, il a fait ceci, cela pour la communauté. Donc, le fait de multiplier Barakallahu fik. La richesse vous a poussé jusqu'à cela. Donc c'est pour cela que certains disaient, on parle de cela. Alors que d'autres, parmi les Mufassirin, disent l'objectif de cette parole, c'est jusqu'à la tombe, jusqu'à la mort. Vous avez dépensé votre énergie de votre vie, et c'est ça votre préoccupation dans votre vie, jusqu'à ce que vous êtes mort. Et quelqu'un qui va faire dans toute sa vie tous ses efforts uniquement à avoir la fortune, et qu'il ne peut pas faire quelque chose d'important parce qu'il est distrait de l'essentiel. Donc, il est préoccupé du vide, de ce qui n'est pas important dans la vie, de la raison pour laquelle nous ne sommes pas là, jusqu'à ce qu'il va mourir. Qu'est-ce qu'il va dire auprès de la gloire? Et c'est cette raison qui pousse mon jeune à faire de toutes les illégalités uniquement pour amasser la fortune. Vendre de la drogue, faire autre chose, plus encore dangereux. L'objectif, c'est d'avoir de l'argent. Donc, il y a à cela un grand mal de notre jeunesse. Le problème prévaut à deux endroits. Premièrement, leur perception même de la notion de la richesse. Qu'est-ce que c'est la richesse? Je vous pose tous la question. C'est quoi la richesse? Je vous pose la question, c'est une question. Je voudrais que ça soit un dialogue entre moi et vous. Quand on dit riche, richesse, je veux être riche, tu veux être riche, je veux être riche. Pour trouver quelque chose qu'on cherche, il faut d'abord le connaître. Et donc, il faut qu'on sache ce que c'est la richesse. Qu'est-ce que c'est la richesse?
C'est la liberté financière.
La liberté financière. Est-ce que ça veut dire quelque chose ce qu'il a dit? Ça veut rien dire.
C'est le mot à la mode.
Hein?
C'est le mot à la mode.
Oui, bien sûr, le mot à la mode. La liberté financière ne veut rien dire. C'est quoi la liberté? C'est quoi la finance? Quelle est la liberté à avoir avec la finance? Vous avez compris? Donc déjà, un premier mot qui n'a aucun sens. Mais c'est ce qu'on dit tout le temps. Comme vous avez dit, c'est la mode. Donc déjà, c'est pas ça. Et quoi? Qui va me donner un autre...
La connaissance.
La richesse. Parce que quand on parle de la richesse, on parle de...
L'argent.
Voilà. Donc, la connaissance est une cause, un moyen. Elle n'est pas, elle, la richesse. Vous avez compris? Qui va donner une autre chose? Je crois que j'ai vidé vos sacs.
Être à l'abri du besoin.
À l'abri du besoin. Tu es proche. Est-ce que vous avez compris? Mais c'est vague.
Alors, son minimum de risque, son minimum vital.
Très bien, minimum vital, oui. Mais aussi, on est toujours dans les concepts. Je veux quelque chose de concret, de contexte. De contextuel.
Je ne sais plus si c'était le verset ou le hadith, où justement, si un croyant, il a de quoi manger,
ouais,
pour un toit, de quoi manger.
Pour la journée. Rester,
ouais, pour la journée. Et bien justement, il a amassé tous les bas de ce...
Il y a le monde entier dans ses mains. Vous voyez. Et donc, vous voyez, quand on parle de la richesse, on parle de la subsistance. Vous avez compris? La richesse, c'est la subsistance. Les moyens par lesquels nous pouvons attenir à nos besoins pour subsister dans cette vie. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec quoi? Avoir un compte bancaire avec beaucoup de zéros derrière. Ça n'a rien à voir avec ça. Ou bien avoir, je ne sais pas combien de Ferrari. Ou bien, dites-moi autre chose, des baskets. Ça n'a rien à voir. La subsistance. Donc, la première des choses, c'est ça qu'il faut comprendre. Et le deuxième point, la définition, on a dit, le sens même de la richesse, il y a une autre notion qui est l'inversion des sens. C'est quoi l'inversion des sens? Quelque chose, on pense que c'est là. Alors que non, ce n'est pas celui-là, c'est son opposé. En fait, on prend la richesse, on dit la richesse, mais on parle de la pauvreté. La fortune, c'est la pauvreté, ce n'est pas de la richesse. Hein. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, je suis parfaitement d'accord. Parce que dans l'esprit collectif, la fortune, c'est... voilà. Mais en réalité, c'est la pauvreté totale. Est-ce que vous avez compris? Donc, il y a différence entre richesse qui est richesse et pauvreté. On prend ce qu'on considère richesse, on prend la pauvreté, on dit que c'est ça la richesse. C'est ça l'inversion des sens. Donc, c'est ça les deux problèmes qui font en sorte que tout le monde aujourd'hui se jette sur ce qu'ils appellent la richesse, mais en réalité, jusqu'à présent, moi je connaissais depuis très longtemps beaucoup de personnes qui activent beaucoup dans le fait d'avoir, d'être riche, mais je les vois jusqu'à présent, ils ne sont pas devenus. Oui, mais peut-être vous aussi, vous le voyez, ou bien même vous faites partie, certains parmi nous ici faites partie de ces gens-là qui a toujours bougé pour avoir beaucoup de ce qu'il appelle les richesses, mais finalement, on le trouve, il est comme nous, même peut-être pire. Donc vous voyez, parce qu'il court quelque chose, derrière quelque chose qui n'est pas réellement la chose qu'il cherche, mais il cherche, il est en train de courir derrière son contraire et son opposé, et il pense qu'il utilise. Donc, de là, il va courir derrière ce qu'il pense être la richesse, mais en réalité, en fait, ce qui est devant lui, c'était la pauvreté. Ce n'est pas la richesse. Donc, l'inversion des sens consiste, bon, je l'ai expliqué déjà, ainsi, ce qui est considéré comme richesse, dans l'esprit collectif, devient la pauvreté. Vous voyez. Donc, maintenant, si nous avons défini ce que c'est la richesse, on a dit la richesse, c'est la subsistance. C'est attenir à ses besoins. C'est satisfaire ses besoins. Satisfaire ses besoins. Et les besoins sont ce qu'on appelle besoins vitaux. Maintenant, la question que je vous pose, c'est quoi le besoin? Le besoin, c'est quoi? Quand vous dites besoin, qu'est-ce que c'est le besoin? Parce que si je sais ce que c'est le besoin, je vais savoir que satisfaire ce besoin-là, j'ai atteint la richesse. Est-ce que vous avez compris? C'est quoi le besoin donc? Je vous écoute, oui? Oui.
Dormir ou vivre en sécurité?
Dormir, vivre en sécurité.
Manger.
Manger.
C'est remplir toutes les conditions nous permettant de pouvoir adorer Allah subhanahu
wa ta'ala. Les conditions qui nous permettent d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Oui.
L'éducation de ses enfants.
L'éducation. Donc vous voyez, tout cela rentre dedans. Mais le besoin, c'est quoi? En réalité, quand on parle de besoin, il faut comprendre une autre notion. La nécessité. La nécessité, le besoin. La nécessité, c'est tout ce qui est lié à l'existence. Ce qui est la base de l'existence. La vie, par exemple, être vivant, est une nécessité pour notre existence sur Terre. Vous avez compris? Il y a ce qu'on appelle les cinq questions existentielles. Inch'Allah, un autre jour, peut-être on va avoir ça aussi à discuter sur ça. Qui sont les cinq questions que toute l'humanité cherche à répondre, auxquelles toute l'humanité cherche à répondre. Et il y a que l'islam seul qui a donné la vraie réponse, et c'est ça l'objectif même des religions. Ils sont venus répondre à ces cinq questions. Qui sommes-nous? Où est-ce que nous sommes? Donc, d'abord, qui sommes-nous? Où est-ce que nous sommes? Pourquoi sommes-nous ici? D'où est-ce que nous sommes venus? Et où est-ce qu'on va aller? Alors, donnez-moi une sixième, si vous voulez. Il n'y a pas. Moi et vous qui êtes ici, on est qui? Voilà. Puisque je suis là, pourquoi je suis là? Si je suis là et je sais pourquoi je suis là, d'abord, où est-ce que je suis d'abord? Là, c'est où? Et pourquoi je suis là? Puisque je suis là, je sais pourquoi je suis ici, et je sais ce que c'est ici, ben, je suis venu d'ailleurs. Tout être est venu d'ailleurs. Et il va ailleurs. D'où est-ce que nous sommes venus? Et où est-ce qu'on va aller? Voilà les questions auxquelles l'islam est venu nous répondre. Et tout ce que nous faisons dans l'islam, tout, est en réponse à cela. Donc, cette existence ici, est une nécessité. On doit être ici, on doit être là. Donc, ceux qui préservent notre existence, nous ne pouvons pas être, nous ne pouvons exister s'ils ne sont pas vivants. Donc, la vie est la base fondamentale de notre existence. La vie est une nécessité pour nous, pour exister. Vous avez compris? Donc, la première des choses, c'est la nécessité. La nécessité, après lui, il y a certains éléments pour lesquels nous pouvons vivre. Sans ça, nous ne vivons pas. C'est ça les besoins. Donc, premièrement, au moins respirer quand même. Respirer. Si nous ne respirons pas tout de suite, c'est fini. Nous allons mourir. Et on ne existe plus. La première des choses. Se nourrir est un besoin pour notre existence. C'est une base pour notre vie. Sans elle, on ne va pas vivre. Donc, un besoin pour notre existence. On a dit vivre. Donc, quand on dit nourrir, manger et boire, vous voyez. Et entendre et sentir et voir. Peut-être les gens vont dire, mais ça n'a rien à voir avec notre existence. On peut exister sans... Il y a des sourds, quand même. On est d'accord. On va dire, ben, les aveugles aussi, ils ne voient pas. Ça ne montre pas qu'ils n'existent pas. Ça ne menace pas leur vie. Il y en a qui peut-être ont des problèmes de l'odorat. Mais ça n'empêche pas qu'ils sont vivants. Et croyez-moi, en réalité, ces trois choses-là, c'est pour détecter ce qui est autour de nous. Et surtout le prédateur. Si quelqu'un parmi nous se trouve dans une forêt, qu'il y a toutes les sortes d'animaux sauvages et tout, et qu'il ne voit pas, il n'entend pas, je pense qu'il ne va pas vivre longtemps. Vous avez compris? Si un lion devient aveugle dans la brousse, il est fini. Est-ce que vous avez compris? Donc ces choses-là aussi sont des nécessités de la vie. Il y a parmi ces nécessités la copulation, les rapports, rapport sexuel. Parce qu'avec ça, les générations continuent. Si dans une société, il n'y a ni homme ni femme, donc il n'y aura pas de copulation, ce groupe d'individus vont s'arrêter à la fin de la vie du dernier. Et ils vont disparaître. Donc si vous prenez en quelque sorte, voilà, en grosso modo, les nécessités, comment ça s'appelle, les besoins de la vie. Premier besoin, elle a dit, respirer. Deuxième besoin, se nourrir. Troisième besoin, voir, entendre, sentir. Vous voyez. Également la population, peut-être j'ai oublié certains. Maintenant, à cela, on a compris ce que c'est nécessité, besoin. Les besoins veillent à préserver ce qui est nécessaire, qui est la vie. Quand on arrive à combler ces besoins-là, notre vie continue. Et combler ces besoins-là, c'est elle qui nous amène à la satisfaction. J'ai faim, on m'amène un plat, je mange, je suis, donc la faim est partie. Je suis rassasié, je suis satisfait. Je n'ai pas besoin de manger encore. La satisfaction est atteinte. Vous êtes satisfait. Comme j'ai dit, l'exemple de la prière, vous avez un habit. Vous avez un seul habit, vous êtes dans le besoin. Parce que cet habit-là, elle va se salir. Quand elle est sale, vous allez avoir besoin de le laver. Et quand vous allez le laver, comment vous allez faire? Vous allez enlever ça. Et qu'est-ce que vous allez avoir chez vous? Il n'y en a pas. Donc vous allez avoir besoin d'un deuxième habit que vous allez porter pour laver ça, sécher ça. Après, quand elle est sec, vous continuez à porter celui-là jusqu'à ce qu'il devienne aussi sale et vous reprenez ainsi de suite. Vous n'avez pas besoin de troisième habit. Troisième habit n'est pas un besoin. Vous avez compris? À partir du troisième habit, vous êtes dans le confort. Vous êtes dans le... comment on appelle ça? La fortune. C'est une fortune, ça. Vous avez compris? Après le manger que vous allez manger là, s'il y a du manger qui reste, vous n'êtes plus dans le besoin de ce manger-là, vous rentrez dans la fortune. Et c'est pour cela le hadith que vous avez dit tout de suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit من بات آمنا في سربه معافا في جسده له قوت يومه كأنما حيز له الدنيا بحذافيرها. Celui qui passe la nuit dort dans son clan, en paix, en sécurité. Ça c'est un, il est en bonne santé. Et qu'il a de quoi manger son jour, le jour. On ne parle pas de lendemain, le jour. Elle a dit celui-là, comme si on lui avait donné tout le monde. Et là, quand on parle du dunya, faites attention, quand le Coran parle du dunya, il parle de la jouissance dans la dunya. Il ne parle pas du temps qu'on vit. Vous avez compris? Il ne parle pas de la terre. Il parle des jouissances qu'il y a dedans. Comme si Dieu lui a donné toutes les jouissances de la terre, toutes les richesses de la terre. Pourquoi? Parce que le besoin est comblé. Il est satisfait. Le reste de la richesse ne lui sera d'aucune utilité. Lui est la personne qui a toute la fortune du monde à ce niveau, ils sont les mêmes. Tu l'as assis, tu as bien mangé, tu es en bonne santé, tu es en sécurité, mais tranquille. Tu peux rester, écouter le cours, oublier, faire tout ce que tu veux. La personne qui est fortunée du monde aussi fait la même chose. Il n'y a pas de différence entre toi et lui. Donc, où est l'importance de sa richesse qu'il a? Seulement dans l'esprit collectif, il se vante, je suis le plus riche. C'est fini. Vous avez compris? Si vous allez me dire, maintenant il a de l'argent, il va régler le problème. Mais ces problèmes-là, c'est l'argent qui les a créés. En fait, ces problèmes ne seront pas s'il n'avait pas cet argent. C'est pour cela que vous allez vous trouver avec des gens qui sont riches, qui ont plus de problèmes à résoudre que vous. Qu'est-ce qui a fait ces problèmes-là? L'argent qu'il a. Est-ce que vous avez compris? Donc en réalité, on n'en a pas besoin. Elle ne fait que nous créer de problèmes. Donc vous avez compris. Donc si on nous parle de la richesse, c'est ça. Ce par laquelle nous arrivons à combler, à subvenir à nos besoins. Et les besoins sont ceux-là. Appelez-les les besoins réels. Appelez-les les besoins naturels. Ce qui est au-dessus du besoin naturel, ça s'appelle besoin conditionné. Tout ce qui est au-dessus du naturel, c'est conditionné. Elle est conditionnée par l'esprit ambiant. Vous voyez la peur. Il y a deux catégories de peur. Il y a la peur réelle, naturelle. Il y a aussi la peur conditionnée. Ce qui fait mal, beaucoup très mal aux sociétés, et tous les maux que nous souffrons, ce sont les conditionnés. Ce n'est pas la naturelle. La peur fait souffrir. La peur détruit. La peur détruit. Quand tu as peur, tu n'es jamais tranquille. Et ça fait travailler le cœur. Et ça mène jusqu'à ce qu'on appelle l'hypertension et toutes ces maladies-là que nous connaissons. Mais ce n'est pas la peur naturelle qui fait ça. C'est la peur conditionnée. Par exemple, la peur du lendemain. Et c'est ça le problème de toutes les sociétés dans lesquelles ces maladies actuelles se sont développées. C'est ça leur problème. Quand les gens ils ont l'hypertension, quand les gens ils ont le diabète, quand les gens ils ont toutes ces choses-là, en fait, c'est dû à cette peur conditionnée. Mais attendez, demain, quand je deviens le jeune, quand j'aurai mon bac, qu'est-ce que je vais faire dans ce monde-là? La personne continue à cogiter ça. Alors que c'est une peur qui n'existait pas, elle ne doit pas exister. Attends que tu vas avoir ton diplôme, tu vas voir que les opportunités vont s'ouvrir et tu vas avoir ta voie à suivre. Tu n'as pas besoin de t'asseoir et penser à ça. Vous avez compris? Et si tu continues à penser à ça, c'est que de la peur qui va s'engendrer dans ton cœur et c'est ça qui va te détruire. Bon, ce n'est pas ça notre sujet. Je voudrais tout simplement expliquer que ici, le besoin est un besoin naturel. C'est ce que nous venons de citer tout de suite. C'est certains des besoins réels qui sont liés à la préservation directe de notre vie, de notre existence sur cette terre pour laquelle nous sommes là, pour laquelle Dieu nous a amenés. Vous avez compris? Donc, ce qui n'est pas cela, il est conditionné par l'esprit collectif des gens. Et c'est ça exactement la pauvreté. Il y a deux catégories de pauvreté et deux catégories de richesse. La richesse réelle, c'est subvenir à ce que je viens de dire tout de suite. C'est ça la richesse réelle. La richesse conditionnée, c'est la fortune, qui en réalité n'est pas une richesse, mais on a mis dans la tête que c'est une richesse. Vous avez compris. La pauvreté également, la même chose. On est en train de s'angoisser parce qu'on pense qu'on est pauvre. Mais en réalité, on est riche. Parce que personne ici, ou en dehors d'ici, ne va me dire qu'il n'a pas de quoi manger demain. Mais pas aujourd'hui, hein, demain. On est d'accord. Donc à ce niveau, vous êtes riche. Au niveau de l'alimentation, parce que vous subvenez à votre besoin de vivre aujourd'hui à demain. Après demain ou demain même, vous ne savez même pas ce que Dieu a préservé pour vous demain. Est-ce que vous allez voir demain même pour manger ça? Mais pourquoi vous cogitez dire que vous êtes pauvre parce qu'il n'y a pas de manger demain? Alors que vous ne savez même pas que vous allez voir demain. Vous avez compris? Personne n'est là qui va me dire qu'il n'a pas trois vêtements au-dessus, au-delà de trois. On est d'accord? Donc déjà la deuxième, j'ai dit vous êtes riche. La troisième, vous n'en avez pas besoin. Voilà. Donnez-moi un autre exemple dans ce que nous avons cité. Alhamdulillah, tout le monde est en bonne santé. En bonne santé ici, je ne veux pas dire qu'on n'a pas quelques problèmes. Bien sûr, c'est normal, c'est naturel. La maladie est naturelle. Mais quand même, on a de quoi se tenir. Maintenant, la respiration, tout le monde respire ici. Tout le monde voit, tout le monde entend. Maintenant, des fois, on veut que la vue soit. Vous voyez, pour les sociétés comme ça, elles vont un peu. Par exemple, vous avez 40 ans, on sait naturellement que toute personne qui a 40 ans, la vue baisse. Mais on veut qu'on garde la vue comme si on était 9, 10 ans ou 18 ans. Ce qui est impossible. Et c'est là qu'on va essayer de nous faire peur de vision floue pour vendre la marchandise. Et là aussi, notre vision, elle est normale. Si tu as 40 ans, tu as la vue de 40 ans. Si tu as 50 ans, tu as la vue de 50 ans. Je me rappelle un jour, j'étais étudiant à l'université. Le soir, elle m'a fait. J'ai pris mon cahier, je suis en train de lire. Donc l'électricité est là, mais c'est un peu loin. Il y a un peu, c'est pas très lumineux. Il y avait un professeur, il est âgé, hein. Rahimahullah, aujourd'hui n'est pas vivant. Il est passé à côté de toi, il m'a dit, approche-toi de la lumière. Parce que ça t'oblige à faire de pression et ça te diminue la vue. Il a dit, mais tu ne peux pas le comprendre aujourd'hui. Tu le comprendras quand tu auras plus de 40 ans. Sincèrement, je n'ai pas compris ça ce jour-là. Mais aujourd'hui, je l'ai bien compris. Vous voyez, quand je prends mon téléphone et que je regarde certaines choses, je vois des lettres là qui ne sont pas claires comme je le voyais. Alors qu'avant, je regardais des petites écritures. Mais ça, ce n'est pas parce que je m'aveuglis. C'est la nature. Je suis comme ça, c'est mon âge. C'est comme ça. Est-ce que vous avez compris? Donc, en grosso modo, toutes ces choses-là, on n'a aucun problème là-dessus. Donc, si on n'a aucun problème dans tout ce que j'ai dit, et le défi que j'ai dit et que j'ai avancé, vous n'avez pas levé, me dire que moi, j'ai ce problème-là, donc moi, je vais déduire que vous êtes tous riches. Voilà. Et pourquoi vous vous cassez la tête pour aller chercher la richesse encore? Alors que vous l'avez déjà. Donc, le problème, ce n'est pas la richesse. On n'a pas un problème avec la richesse. Ce n'est pas parce que nous sommes pauvres. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas riches. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas la satisfaction. On est satisfait, nos besoins sont satisfaits. Je dis, ou satisfaits, on dit. Je dis, chacun de nous mange à sa faim. Son besoin de rassasiement est donc au niveau de la nourriture est satisfait. On est d'accord? Chacun de nous a les vêtements à porter. À ce niveau, il est satisfait. Chacun de nous voit bien. Il est satisfait. Chacun de nous entend. Il est satisfait. Chacun de nous sent. Il est satisfait. Ainsi de suite. Donc, nous sommes satisfaits. On a tout ce qui nous satisfait. C'est pas ça le problème. C'est pas qu'on n'a pas quelque chose qui nous satisfait, qui nous suffit. Maintenant, ce qui nous reste, la reconnaissance de cela, reconnaître cette satisfaction-là, c'est ça notre problème. Reconnaître intérieurement, être satisfait intérieurement, dans notre cœur, être content de ce qu'on a, voilà tout simplement le problème. Donc n'attaquons pas Dieu de nous avoir appauvris, mais attaquons nous-mêmes. C'est parce que c'est notre intérieur qui refuse d'admettre la satisfaction déjà réelle que nous avons. Si on est d'accord de tout cela, en quoi et pourquoi tous ces efforts dans l'illégalité uniquement pour atteindre cette richesse? Et puisqu'on n'a pas accepté, c'est pour ça que je dis la richesse, elle est une richesse réelle, et la richesse réelle, nous l'avons. Vous avez compris? Maintenant, la richesse que nous cherchons, c'est la richesse conditionnée, qui dans la réalité n'existe pas. C'est parce que notre société l'a conditionnée. Jusqu'à ce qu'on nous montre, par exemple, dans la télé ou quelque chose, les personnes qui vivent bien, qui ont gagné leur vie. Vous voyez, gagner la vie. Et c'est ça, c'est l'incarnation pour eux de la richesse. Et nous, finalement, on a fini par croire et mettre de côté la vraie richesse. Donc pour en finir, dites que tout simplement la vraie richesse, c'est quoi? La satisfaction intérieure. Et cette satisfaction intérieure engendre donc la reconnaissance. Quand on est satisfait intérieurement, on reconnaît. On reconnaît à qui? Au pourvoyeur. Il nous a pourvoyé. Allah Ta'ala qui nous a donné. Si quelqu'un t'a pourvoi ou t'a pourvu, on dit quelque chose, et que tu es satisfait de ce qu'il a fait, tu seras reconnaissant à son égard. Et quand tu es reconnaissant, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas remercier. Hein? Tu vas être généreux. La générosité, ce n'est pas seulement donner à la main, aussi remerciement, faire des éloges à l'individu. Ça aussi, ça fait partie de la générosité. Autant que tu peux. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si quelqu'un vous a donné quelque chose, compensez-le. Si vous n'avez pas de quoi le compenser, remerciez-le jusqu'à ce qu'il se sente compensé ou récompensé. Vous voyez? Parce que, oui, il a besoin, parce qu'il a besoin de reconnaissance. Il a besoin de savoir si ce qu'il t'a donné là, ça t'a servi à quelque chose. Si tu me donnais quelque chose et demain je te rends compte, je dis franchement, je te remercie beaucoup. Ce que tu m'as donné là, ça m'a sorti dans un problème. Wallah, tu seras très content. Peut-être demain, si tu sens que j'ai besoin de quelque chose, tu vas venir me donner. Vous avez compris? Et c'est là, donc la générosité à l'égard d'Allah, la générosité à l'égard des gens, on va aider nous aussi, les personnes qui étaient en difficulté, qui est en difficulté comme on l'était. On sent, on sait la difficulté, l'amertume que ne pas avoir provoque. Et on se met à la place de cette personne aujourd'hui. Et automatiquement, on va aller le donner. Tandis que ce que nous appelons la richesse, ce qu'on appelle la fortune, elle, de son côté, elle crée la cupidité. La cupidité, l'avarie. Et la méconnaissance, la personne ne reconnaît pas. Parce que il pense que il est spécial. Regardez, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit à propos de Qaoum. فخرج على قومه في زينته. Qaoum est sorti avec ses parures. فقال الذين يتمنوا المهم جاء وقال الفرسي يدي يا ليت لنا مثل ما لقارون إنه لا إنه لذو حظ عظيم. يدي أوديون je souhaite avoir ce que Karun a parce que il est quelqu'un qui est beaucoup de qui a beaucoup de chance quand ils ont vu son habit. Donc voilà la fortune. Dans la réalité, il n'est rien, mais dans les visages collectifs, il est quelque chose. Il est ce qu'il est parce que les jeunes disent qu'il est comme ça. Si vous, si il s'habille de la même manière et il tourne autour des moutons, est-ce qu'il y a un mouton qui va lui dire quelque chose? Il n'y en a pas. Et d'ailleurs, lui-même, il n'y aura pas envie de porter ses vêtements pour aller tourner derrière le mouton, parce qu'il sait que les moutons ne vont pas le regarder, ne vont pas l'envier. Et donc, le sentiment chez le riche, ou bien ce qu'on appelle plutôt le fortuné, c'est justement, il a besoin que les gens lui disent qu'il est riche. Donc, c'est un peu ça, la pauvreté, ou bien la richesse. La définition entre, la différence plutôt entre pauvre, pauvreté et fortune. Après la subsistance, à nos besoins d'usage pour notre survie, le reste ou le surplus, c'est ce que l'on appelle communément fortune. C'est ce qu'on appelle fortune. La fortune est par conséquent ce qui abonde à la richesse au-dessus de, besoin, de notre besoin d'usage. Au-dessus de notre besoin d'usage, donc on n'en a pas besoin. C'est ce qu'on n'a pas besoin, qui ne nous donne aucune utilité. Donc on court derrière quelque chose qui enfin n'est pas utile. Vous voyez, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi sur ce sujet ou pas, mais moi c'est comme ça que je vois la chose.
Oui, quand on dit Ferrari, ils ont 10 voitures, ils vont conduire une voiture, voilà. 10.
Certains ne vont même pas conduire même une seule voiture parmi. Il y en a qui ont, je sais pas, des étagères de chaussures qui, des fois, ne vont même pas porter même un seul. Donc, c'est quoi? C'est seulement pour montrer qu'il est parti acheter pour dire, montrer qu'il est fortuné et riche. Voilà. Mais si tu as Ferrari, ça veut dire que tu es riche. Il faut que les gens sachent que tu as Ferrari, donc tu es riche. C'est tout simplement ça. Est-ce que vous avez compris? L'importance de la richesse de, et de la fortune dans la vie. Bon, c'est déjà dit. La richesse a d'importance dans la vie parce que c'est elle qui maintient notre survie. La fortune n'a pas d'importance dans la vie parce que elle n'est pas utile dans notre usage. Donc, si quelque chose n'est pas utile dans notre usage, pourquoi on va se casser la tête, perdre le temps, l'énergie, même la vie des fois, pour la procurer? Est-ce que quelqu'un peut me répondre à cette question? Pourquoi les gens courent? Pourquoi nous courons? Pourquoi nous aimons la fortune?
C'est Shaitan, il faut voir l'argent.
Oui, je suis d'accord, il y a Shaitan. Mais c'est l'excuse la plus, la plus probante. Parce qu'on va rejeter la responsabilité chez Shaitan.
Le nafs,
parce que le nafs. Ouais, il y a Shaitan.
Parce que, oui, mais des fois, Shaitan, il n'a même pas besoin de fournir des forces.
C'est vrai, parce que le nafs, il est déjà prêt.
Le nafs, il est déjà prêt.
Il veut exercer ce qu'il veut à le faire. Exactement, oui.
Il a prouvé, il y a vraiment le. Plus que le besoin de reconnaissance,
c'est ça.
C'est le besoin de prouver. Et oui. Toutes les marques de luxe, elles fonctionnent sur ce principe-là.
Et qui encore va nous donner autre chose?
Je vais différencier des autres personnes.
Voilà. Pourquoi j'ai besoin d'être différent des gens? Je suis comme eux.
Pour se parler.
Voilà. Mais on veut être différent, oui. On veut être supérieur, au-dessus. Vous voyez, dominer. La richesse nous donne le pouvoir. Le pouvoir dominer les autres. Mais finalement, à quoi va servir la domination des autres? Oui.
Il y a aussi.
La cubicité. Oui. Non, il était le devant. Oui.
Tu rejoins au frein.
Oui.
La
prétention. La prétention, bien sûr. Oui.
La peur.
La peur de.
La peur de devenir pauvre.
Oui. Ben...
Même si on est riche, on continue à avoir cette image-là. À chercher. Et...
Oui, chercher beaucoup parce qu'on, parce qu'on a peur de perdre.
De perdre et de.
Exactement. Donc, vous voyez. Donc, il y a tous ces aspects-là. Mais finalement, ces aspects, ça fait la peur de perdre, ça rentre dans la peur conditionnée. Ce n'est pas la peur réelle.
Sure.
Vous voyez? Parce que de toutes les façons, même s'il perd sa richesse, comme on dit, sa fortune, il va trouver de quoi à manger, vivre, ainsi de suite, jusqu'à la fin de sa vie plutôt. Vous voyez? Oui.
vous parlez aussi de l'aliénation de la société qui vous pousse à cette image-là de
oui, bien sûr, en fait, réussite et gagne. Oui, ça c'est très bien parce que c'est notre sujet. En fait, la course que nous faisons derrière la richesse, c'est tout simplement certains nous manipulent pour être riches. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'on nous pousse à vouloir chercher la richesse. Et à travers notre activité de trouver la richesse, eux, ils sont en train de gagner sur nous. Par exemple, quelqu'un qui va venir sur le Top Top nous montrer comment être riche en un clin d'œil sans se lever de chez lui. En réalité, parce qu'il veut que tu regardes sa vidéo. Est-ce que vous avez compris? En réalité, il veut que tu t'abonnes. Est-ce que tu vois? En réalité, il veut que tu rentres aussi dans son cercle. Vous voyez? Pour que, par toi, il va gagner de l'argent. Il s'en fiche de toi et ce que tu vas gagner. Ce n'est pas son problème, ça. Donc, il y a tous ces problèmes-là que nous avons dans les sociétés. Maintenant, je vais revenir à la conclusion pour finir. Oui.
Oui, en fait, c'est là, par exemple, aujourd'hui, actuellement, on nous donne cette vision, parce que, enfin, on prend un exemple, on te dit que acheter un appartement, c'est bien, que tu meubles l'appartement, c'est bien, donc ça t'oblige à faire un crédit.
C'est ça.
Rentrer dans le Réva,
ce qui
s'ensuit.
Exactement.
Et en fait, tu deviens esclave.
Exactement.
Esclave.
Exactement. Et cette crédit que tu vas porter là, qui va gagner?
La banque. C'est la banque.
Qui a fait la publicité. Parce que c'est la banque qui a la chaîne. Et c'est la banque qui a fait la publicité pour te pousser à acheter. C'est comme ce fameux histoire en France que ceux qui vendent de l'eau vont demander à mettre un peu de sel dans les pâtes pour que les consommateurs mangent beaucoup de pâtes. Parce que le sel fait en sorte que c'est encore agréable par rapport aux autres. Et le sel donne de la soif. Vous voyez le vice. On vend de l'eau, on va demander de mettre... Bon, on fabrique aussi des pâtes. On met un peu de sel dans les pâtes pour que si la personne mange les pâtes, il va avoir besoin de plus d'eau. Pour acheter l'eau.
En fait, c'est le besoin.
Exactement. Et comme également... les années, je ne sais pas, 70 ou 80 ou comment, un ministre qui avait une ferme de vaches qui va intégrer dans la loi obligeant la jeunesse, les jeunes, qu'on leur donne du lait le petit matin parce que ça fait fermer bien les os. Donc on va manipuler aussi les scientifiques qui vont nous faire comprendre la relation du calcium dans le lait et le besoin de calcium du corps de l'enfant qui est un instant d'évolution, et donc il faut que vous faites boire chaque matin un verre de lait au minimum à votre enfant. On a déjà calculé combien de familles peut-il avoir en France et combien d'enfants chaque famille et combien de briques de lait ils vont consommer par jour. Donc déjà ça on sait. Donc, vous voyez le problème de la société, c'est pour cela qu'il faut vraiment être éveillé et comprendre que toute cette histoire d'être riche et autres que beaucoup de jeunes ne comprennent pas, c'est une pure manipulation. Voilà. Et si on n'est pas manipulable, on ne peut pas être manipulé. Il faut arrêter d'être manipulable. Voilà. Sinon, comment ici en France, on te dit le petit déjeuner c'est comme ça, du sucre, alors que quand tu vas en Angleterre, c'est du sel. Salut. Bon, ils ne sont pas des humains comme nous. Voilà, donc il y a tous ces problèmes-là. Oui, vous avez voulu dire quelque chose.
Le petit déjeuner, en soi, il a été inventé par un diététicien.
Exactement.
Qui est Clark Kellogg. Et Clark Kellogg, c'est les marques de salade.
Et c'est pour ça qu'on dit déjeuner. Déjeuner. Ouais. Le déjeuner, c'est le midi. C'est-à-dire, on coupe le jeûne. C'est-à-dire, le matin, il ne faut pas manger. Et c'est à midi qu'on mange. C'est ça la réalité sanitaire, la santé. Alors qu'on fait comprendre que non, mais il faut manger le petit déjeuner, sinon, c'est un problème. Parce qu'il veut manger. Le produit. Alors que le jeûne, aujourd'hui, tout le monde est convaincu de l'importance du jeûne pour la santé. Là, c'est pas les musulmans. Hein? C'est même pas les musulmans. La personne qui a adopté le jeûne pour moyen thérapeutique, c'est un Allemand. Ils ont même construit un hôpital, uniquement pour ça. Et c'est un homme. C'est un homme qui était dans l'armée pendant la guerre. Et il a constaté la relation de la guérison des combattants par rapport au fait qu'ils ne mangeaient pas parce qu'ils étaient dans les tranchées. Et c'est là qu'il a compris que le fait qu'ils ne mangeaient pas a de relation avec la santé. Et il a fait beaucoup d'études dessus, il était médecin, même dans la guerre.
En Russie aussi.
En Russie aussi, hein?
Oui.
Très bien.
Voilà.
Donc, pour vous dire, voilà un peu les choses. Maintenant, on a dit la satisfaction. La satisfaction engendre la reconnaissance. La reconnaissance conduit au remerciement et la générosité. Voilà le point fondamental. La richesse, c'est quoi? C'est cela. Au fur et à mesure que tu es satisfait, tu es reconnaissant à celui qui t'a satisfait. Et tu remercies. Et tu es généreux à son égard et l'égard des autres. Lui aussi, davantage, il va avoir envie de te donner. Et donc, tu multiplies cela et multiplies cela. C'est-à-dire, celui qui veut être riche, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit être reconnaissant tous, toujours. Et remercier. Et être généreux, le pourvoyeur aussi va avoir envie de lui donner. Et au fur et à mesure, son bien est en train de s'accroître. Et c'est ça qu'Allah va nous dire. À propos de deux choses, al-istighfar et at-tasbih. Al-istighfar ou at-tasbih. Al-istighfar multiplie nos biens. Parce que al-istighfar, premièrement, c'est la reconnaissance. C'est la générosité, c'est le remerciement. Se repentir de ses péchés, c'est de reconnaître que ce que nous avons fait est quelque chose de mal. Et en s'éloignant, on protège soi-même, on protège les autres, parce que le péché, on le fait à l'égard des autres. Un dealer ou un bandit qui tue les gens. Un jour, il se rend compte que ce qu'il fait est mauvais. Il se repent. C'est-à-dire toutes les vies futures qu'il doit enlever, il doit enlever, il ne va plus les enlever. Il a protégé chez Allah. Il a protégé leurs biens. Déjà au fond de son cœur. Et l'abstention dans ses actes du méfait. Après, il va continuer à demander à notre Allah de nous pardonner. Astaghfirullah. Tout le temps. Il regrette ce qu'il a fait. Et Allah Ta'ala nous dit, si nous faisons ça, nos biens seront à quoi? Allah Ta'ala dit sur la langue de Nuh alayhi salatu wassalam, nous dit par l'instruction divine, wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. J'ai dit à mon peuple qui avait une difficulté, la pluie ne tombe pas, et la pluie est la source fondamentale de toute la subsistance. Si elle ne vient pas, il n'y a pas de subsistance. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de pluie en France, il n'y aura pas de nappe phréatique, même les robinets ne vont pas demander de l'eau pour arroser les champs de blé. Donc, ils vont avoir la famine en France. Les moutons, les animaux ne vont pas manger. Il n'y aura pas de la viande, ainsi de suite. Toute cette aisance-là que nous avons, va s'arrêter. Je leur dis, demande pardon à votre Dieu, car il est celui qui pardonne. Si, quand il vous aurait pardonné, il va vous envoyer le ciel, la pluie, et abondamment et suffisamment. Il va vous ravitailler de beaucoup de richesses. Wadanim et d'enfants. Vous voulez avoir beaucoup d'enfants? Mais vous allez avoir. Wadanim. Wayaj'al lakum jannatin. Il va vous mettre, il va vous donner des gants, des jardins de toute forme de fruits et de graines. Wayaj'al lakum jannatin. Wayaj'al lakum anhara. Il va vous donner des ruisseaux qui vont couler. Vous allez vous laver. Vous allez vous désaltérer, vos animaux vont boire, vous allez arroser tout ce que vous voulez, ainsi de suite. L'abondance totale. C'est pour ça le sens du paradis, c'est quoi? Le paradis est l'endroit le plus merveilleux qu'on peut imaginer. Mais c'est quoi le paradis? Al-Jannah. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Al-Jannah, c'est un champ dans lequel, premièrement, il y a des arbres, des grands arbres, qui sont tels que les palmiers, les dattes, dattiers et autres. Et les arbres grimpants tournent autour, tels que les vignes. Et pourquoi cela? Parce que ça fait en sorte que ça fait des ombres, de l'ombre. Et ça fait une vision imperméable. Toi qui es à l'extérieur ne vois pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pour ça que vous avez dans le mot Jannah, Jinnun, Jinnun. C'est le même mot qu'on utilise avec Jinn, Jinn. C'est les mêmes lettres. Vous avez compris? C'est le mot qu'on utilise avec le fœtus à l'intérieur de l'ombre de sa mère. Al-Janin. C'est le même mot qu'on utilise à l'obscurité, la nuit quand elle est intense. Al-Jannayou. Pourquoi? Parce que toutes ces choses-là reviennent au même. Ça crée une situation d'invisibilité qu'on ne voit pas à travers. Donc elle protège à l'intérieur. Il y a à manger, à boire, il y a tout. Et en même temps, le prédateur extérieur ne peut pas vous détecter. La sécurité totale. C'est ça le sens du Jannah. Et ce que ce verset qu'on vient de dire de Noun, elle décrit cela au peuple de Noun, qu'ils vont avoir ce paradis sur terre. Ne sert pour une pas une seule chose. C'est un film en parole. Vous avez compris? Ce que Noun a dit à son peuple, c'est l'engagement d'Allah, pas que pour eux, pour toute l'humanité. C'est-à-dire que nous, si nous laissons cette volonté d'avoir beaucoup d'argent qui nous tombe, qui nous met dans toutes ces méfaits, et on refuse de répondre à Allah tabaraka wa ta'ala, sincèrement, vous allez voir qu'Allah tabaraka wa ta'ala va nous dessiner la voie de la subsistance par laquelle nous serons satisfaits. Vous n'avez même pas besoin de ce que nous faisons. Ça c'est un. La même chose, les gens de Houd, Houd leur dit, Ya qawm, istaghfiru rabbakum, thumma tubu ilayhi, yursil as-samaa alaykum midrara, wa yazidukum quwwatan ala quwwatikum, wa la tatawallaw mujrimin. Il dit, ô mon peuple, demandez pardon auprès d'Allah. Si vous faites ça, il va vous faire descendre la pluie. Comme il a dit aux gens de Noun. Et abondamment. Également, il va vous ajouter de la force à votre force. Et faites gaffe, ne vous détournez pas. Parce que quand vous vous détournez, vous serez des criminels. Quand on se détourne à cela, on est criminel. Chercher la fortune à tout prix, c'est de la criminalité. Parce qu'on va commettre le crime. Et donc, tout ça, c'est des engagements de Allah Ta'ala. Donc, la première des choses, pour accroître sa richesse, on ne le fait pas pour cela. On le fait uniquement pour satisfaire Allah Ta'ala. Et c'est tacitement que Dieu va nous exaucer et nous allons avoir de quoi nous subvenir. Parce que ça donne également la subvention dans le cœur. Quand on a la subvention dans le cœur, on n'a même pas envie d'avoir beaucoup de richesses. Vous avez compris. Un jour, Atta Ibn Yasar, qui est le plus grand savant à la Mecque, après la mort d'Abdullah Ibn Abbas, parce que c'est son élève. Il est l'élève d'Abdullah Ibn Abbas. Abdullah Ibn Abbas est le mufti de la Mecque. Quand il meurt, c'est lui qui l'a remplacé. Atta est parti voir le Khalifa. Atta est venu, il a des vêtements déchirés, vraiment. Et quand le roi, le khalifa a entendu, quelqu'un lui a dit, il y a le chef qui est à ta porte. Le chef est sorti, à pied, il marchait. Atta était un esclave affranchi. Vous avez compris? Il était un esclave affranchi depuis qu'il avait 12 ans quand il a été affranchi. Il est le chef de toute la Mecque. Et quand le Khalifa, il marchait vraiment la tête comme ça, après, il est venu. Papa lui a dit, les pauvres se plaignent beaucoup. La société se plaint beaucoup. Il y a beaucoup de justice, il y a ceci, cela. Donc il est venu se plaindre pour le peuple. Il a la tête comme ça, il a dit, j'ai compris. Il est d'accord d'alléger les choses. Après quand Attan a fini, il a dit à Attan, et qu'est-ce que toi tu as besoin? Dis-moi ce que tu veux maintenant. Elle a dit, je n'ai besoin de tout ce que, de rien de ce que vous avez. Alors qu'il a des vêtements déchirés, il n'a pas de jolis vêtements, il n'a pas de vêtements de soie ni rien. Après, il a pris sa route et il est parti. C'est là qu'il y avait un vieux qui est assis avec son enfant. Et là aussi, c'est une leçon pour les parents. Son enfant est assis, il est là. Il a dit à son fils, mon fils, tu vois, c'est le roi même qui baisse la tête pour l'esclave. Le problème des Arabes, c'est que même si tu es affranchi, tu n'es plus affranchi, tu es toujours esclave. C'est comme ça les gens du désert, ils sont tous comme ça. Vous avez compris. Il lui a dit, regardez, l'esclave, c'est pour l'esclave que le roi baisse la tête. Il a dit, mon fils, apprends la science. Quand tu as la connaissance de la science, tu es le maître, même si tu es le plus bas. Vous avez compris. Ici, l'objectif, c'est quoi? C'est de dire, attends, regardez la situation dans laquelle il est, ses vêtements et tout, mais il est satisfaisant, il est satisfait. Il n'a pas besoin de la grande richesse que le roi a. Alors que s'il avait demandé 1000 dinars, 100 000 dinars, il va le débloquer directement et lui donne. Il n'a pas envie de cela. Parce que pour lui, ça ne lui servira à rien. Il a besoin de quoi à manger pour tenir et adorer Allah. Et ça, on n'a pas besoin d'une grande richesse pour ça. Donc, ça c'est Al-Istighfar. Et je finis avec le deuxième qui est Al-Tasbih. Al-Tasbih est très important. Regardez dans le Coran. Le Coran est plein à nous encourager, à nous interpeller à faire le Tasbih. Après Al-Istighfar, vous allez trouver beaucoup le Coran parle de Al-Tasbih. Fasabbihisma rabbika al-a'la. Il y en a beaucoup. Le roi sallallahu alayhi wa sallam nous dit Subhanallah wa bihamdi. Il dit Salatu kul shay. Wa bihi yurzaqul khalq. Subhanallah wa bihamdi est la prière de toutes les créatures. Toutes créatures, vivantes ou pas. Je vous ai raconté l'histoire de ces pierres-là qui disent Subhanallah wa bihamdi, que le prophète a pris, qu'il a donné à Bakr et à Omar. La même chose, les oiseaux, wa tayyu safatin, kullun qad alima salatahu wa tasbihahu. Il n'a pas dit wa tahmidahu, il a dit wa tasbihahu. Les oiseaux. À chaque Dieu a inculqué son tasbih, sa prière et son tasbih. Et c'est dans sa prière qu'il fait le tasbih. Les arbres, les plantes, tout. Il n'y a que l'homme qui reste. Vous avez compris. Et donc, il a dit, il est la prière de toutes choses. Il dit, wabiha, wabiha, wabihi, yuzakul khalq. Et de ce mot-là, par ce mot-là, Dieu pourvoit à toutes les êtres leur subsistance. La formulation, grâce à la formulation, ou grâce à Allah et la formulation de ce prière, Dieu donne à tout être sa subsistance. Ça veut dire que si l'homme formule ça tout le temps, il va avoir sa subsistance. Vous voyez, nous avons la Allah. Si vous remettez à Allah réellement, il va vous pourvoir comme il pourvoit l'oiseau. Il sort de son nid le matin, il a le ventre creux, vide, il a faim. Et le soir, quand il revient, il a le ventre plein. Le matin, quand il sort, où se trouve la nourriture, je ne sais pas. Il va rentrer seulement, comme un conducteur de taxi. Il ne sait pas où est-ce qu'on va la plume. Eh bien, toute chose, toute personne aussi, le matin sort, allez chercher la richesse. Wallah, Allah te va destiner quelque part. Et il va une ligne qui va se dessiner jusqu'à ce que tu arrives. Et tu l'as, tu reviens le matin et le soir, demain, dans les mains d'Allah Tabarakata. Tu n'as pas besoin de te paniquer ni avoir peur, de peur qui va te créer des hypertensions. Ah là, maintenant, j'ai perdu mon boulot. Comment je vais avoir un boulot encore? Tu ne dors pas. Non, ça n'a pas besoin de tout ça. Ce n'est pas pour cela que Dieu t'a créé. Ce n'est pas pour te préoccuper de cela que tu es là. Préoccupe pour toi d'autres choses et mets ça de l'autre côté. Hassan al-Basri nous dit, il dit la richesse ou la fortune, c'est comme l'ombre, comme l'ombrage. Quand tu le suis, il te fuit. Allez-y dehors, le soleil, ton ombre, allez, vas-y, vouloir mettre ton pied sur ta tête, voir si tu peux. Tu peux pas. Parce que quand tu arrives, il va, il est là-bas. Il a dit, mais si tu tournes le dos, il va te suivre. Il dit, la richesse de toi, c'est ça. Il ne faut pas lui faire face. Sinon, il va te fuir. Mais tourne le dos. C'est lui qui va te suivre. Donc, on n'a pas besoin de tout ce qu'on est en train de faire. C'est pas d'énergie vide. Et donc, Allah Ta'ala nous dit, fasbir ala ma yakoum. Wasabbih bihamdi rabbik. Sabbih tasbih. On est toujours dans tasbih. Wasabbih, Dieu dit, sabbih bihamdi rabbik. Subhanallah wa bihamdi. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. Multiplier à cet instant à tasbih tout le temps, tous les jours. Avant le lever du soleil, donc après la prière du matin, reste assis. Multiplie le tasbih avant que le soleil se lève. وقبل الغروب, et avant le coucher. Vous avez fait la prière d'Asr? Prends un temps. Et tu fais des cris. Wa min ana al-layl. Réveille-toi la nuit. Ne sois pas comme un cadavre qui est dans une tombe. Sa maison est la tombe. Réveille la nuit. Dors tôt. Mets le téléphone de côté. Des TikTok qui va te perdre le temps, qui n'ont aucune importance, qui va te somme. Tu vois que créer une somnolence. Et dors tôt. La médecine actuelle démontre que le sommeil, le début de la nuit, est le sommeil constructif du corps. Après, ça n'a pas d'importance. Et on connaît dans la sommeil du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme ça le prophète dort. Il prie la nuit, beaucoup, mais il dort. Il dort le début de la nuit. Il se réveille le milieu de la nuit, il prie, il dort un peu, il se réveille vers la fin de la nuit. Donc, la science la démontre. C'est la meilleure chose. Mais pourquoi on est en train de se casser la tête devant la télévision, devant les chaînes, devant le téléphone aujourd'hui? Et le temps précieux, physiquement, religieusement, pour notre vie, on est en train de le laisser de côté. Donc on dort. La nuit, on trouve un moment, on se réveille. وَمِنْ أَنَا إِلَيْلِ فَسَبِّحْ. Et dans la nuit, réveillez-vous et faire le tasbih. وَأَطْرَافَ النَّهَارِ. Et les extrémités de la journée. Et Dieu dit à la fin, لَعَلَّكَ تَرْضَى. C'est ça qui est important. Bien sûr, le verset est important. Mais c'est ça l'objectif. Si tu fais ça, tu seras satisfait. Tu seras satisfait. Ce que Dieu va te donner sera satisfait. Tu seras satisfait. Avec tasbih, il te donnera. Et tu seras satisfait. Donc voilà le message que je vais. Je voudrais plutôt vous communiquer, premièrement, la richesse. On a l'âme. C'est la reconnaissance. C'est la non, le mot que je voulais, c'est. Qu'est-ce qui nous manque? La reconnaissance, c'est un autre mot le plus.
La satisfaction.
La richesse en âme, c'est la satisfaction. On est déjà satisfait parce que tout ce que nous avons besoin, on en a. Là, à ce niveau, la satisfaction est faite. Maintenant, il suffit ce que nous soyons satisfaits à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre cœur. Si nous avons ça, nous serons reconnaissants. Automatiquement. Et quand on est reconnaissant, on serait remerciant et généreux. Et voilà comment la générosité se passe. C'est de formuler cette reconnaissance, c'est de formuler cet remerciement en istighfar et tasbih. Et s'il y a ce istighfar et tasbih multiplié, Dieu va encore multiplier son don, sa pouvoir, sa pauvreté. Voilà comment on peut être riche, fortuné dans la légalité et dans le bien de la vie d'ici-bas. Et à travers ça, on aura aussi le bien de l'au-delà. On a gagné les deux. Contraire de ça, de cela, on a tout perdu. Qu'Allah nous facilite. Qu'Allah Ta'ala nous aide à suivre ses ordres et ses règles qui construit notre bas monde, par laquelle on sera bien avec les gens, qu'on ne va pas détruire pour des choses vides. Subhanakallah, mon amik. Shahada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma fi lana dhunubana wa qina adhaban nar. Wa hadina ala siratika al-mustaqim. Wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Astaghfirullah, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Assalamu alaykum wa rahmatullah.
That's a lot of fiction.